Alors aujourd'hui, je voudrais parler sur la possibilité de l'abdication de l'empereur. C'est un thème assez chauffant au Japon, mais il faut faire attention quand on parle surtout sur le thème de ce qui se concerne sur l'empereur. Alors, comme l'introduction, le 13, pardon, peut-être hier, mon papier était distribué, et ou bien était dans votre sac, peut-être. Comme l'introduction, le 13 juillet...
Y a-t-il quelqu'un qui ne possède pas ce résumé? S'il y a quelqu'un, levez la main, s'il vous plaît.
Alors, le 13 juillet 2016, la chaîne de télévision publique NHK a rapporté que l'empereur et l'impératrice ont l'intention d'abdiquer. Le gouvernement a cependant nié cette information en affirmant que ce n'était pas le cas. En outre, le 14 juillet, le chef de l'agence de la maison impériale a déclaré « Sa Majesté, du fait des restrictions fondées sur la Constitution, a refusé de se prononcer spécifiquement sur ce point. Par conséquent, il n'a fait qu'une simple déclaration. En outre, il a indiqué que l'article 4 de la Constitution définit que l'empereur n'a aucun pouvoir lié au gouvernement. Par conséquent, la révision de la loi sur la maison impériale pour y intégrer une possibilité d'abdication est déraisonnable. Dans ce contexte, est clairement apparu au grand jour le problème du vieillissement de l'empereur qui est de plus en plus soumis à de multiples obligations. Un exemple, en 2015, selon le journal Nikkei du 30 juillet 2016, l'activité de l'empereur était la suivante. Signature et apposition du sceau impérial sur environ 1000 documents relatifs au fonctionnement de l'État transmis par le cabinet. Et présidence d'environ 270 cérémonies de nomination de personnes publiques comme les ministres, d'audience, conférence. 47 visites de dignitaires étrangers et visites d'ambassadeurs de 53 pays et une visite officielle à l'étranger et 15 visites régionales dans 40 communes. Toujours selon le journal Nikkei du 9 août 2016, l'empereur a été officiellement actif 261 jours sur en 2015. Soit à presque tous les jours de la semaine, y compris les 41 jours fériés. Et devant telle une situation, l'empereur a exprimé le 8 août 2016 ses sentiments qui susciteraient son intention d'abdiquer. Et l'empereur est devenu un simple symbole du Japon avec la constitution de 1947. Il est supposé n'effectuer que des actes prévus par la Constitution. Le statut du trône a été déterminé par la loi sur la maison impériale du 16 janvier 1947, et prévu par l'article 2 de la Constitution, mais aucune disposition relative à l'abdication n'y était définie. Cependant, bien que la question de l'abdication ait été discutée lors de l'adoption de la Constitution, Le gouvernement avait émis un avis négatif sur cette possibilité. Et dans cette conférence, et suite à l'annonce de l'empereur, je voudrais discuter justement de cette question de la durée de vie et l'abdication de l'empereur. Et premier, le système impérial symbolique sous la constitution du Japon. A. La position et les pouvoirs de l'empereur. L'article 1er de la constitution japonaise stipule que l'empereur est le symbole de l'État et de l'unité du peuple. A ainsi été adopté un système impérial symbolique dans lequel toujours, selon l'article 1er, l'empereur doit à ses fonctions à la volonté du peuple en qui réside le pouvoir souverain. Et de plus, selon l'article 2 de la Constitution, le pouvoir impérial est héréditaire et sa succession est organisée par une loi de la Diète. Dans la Constitution, le rôle joué par l'empereur dans la politique nationale a donc été limité à servir de symbole du Japon et de l'intégration du peuple japonais. Et toutefois, la Constitution prévoit l'accomplissement de certains actes étatiques par l'empereur en tant que chef d'État. L'article 3 de la Constitution précise à ce sujet que tous les actes de l'empereur accomplis en matière de représentation de l'État requièrent l'avis et l'approbation du cabinet qui en est responsable. L'aliéna premier de l'article 4 précise que l'empereur ne peut exercer que les seules fonctions prévues par la présente Constitution en matière de représentation de l'État et il n'a pas de pouvoir de gouvernement. L'article 4 indique bien que les pouvoirs de l'empereur ne relèvent donc pas de l'exercice de gouvernement, même s'ils sont actes d'État. Cependant, les actes d'État pris par l'empereur et prévus à l'article 6 et l'article 7 sont des actes profondément impliqués dans la politique, comme la nomination formelle du Premier ministre ou du président de la Cour suprême désigné par la Diète, ou la convocation de la Diète, la dissolution de la Chambre des représentants, la convocation aux élections, la nomination et révocation des ministres et la promulgation des lois et décrets. Et dès lors, lorsque l'empereur adopte de tels actes d'État, ceci ne serait-il pas à contraire à la Constitution et à l'affirmation posée par l'article 4. À cet égard, la théorie précise que non. En effet, tous ces actes de l'empereur qui accomplit et personnellement doivent néanmoins faire l'objet d'un avis et approbation de la part du cabinet et sont de toute façon contresignés par les membres du gouvernement compétents selon l'article 3 de la Constitution. Dans ce système, l'empereur n'a pas d'autre choix que de suivre l'avis et l'approbation du gouvernement conformément à la Constitution et à la loi et ne peut agir seul sans un contre-saint. Dès lors, ces actes ne sont pas politiques et n'ont pas de valeur autonome. L'empereur n'adopte ces actes que formellement. B. L'héritage du trône. La loi sur la maison impériale du 16 janvier 1947 a organisé le système impérial en maintenant le principe de la succession héréditaire. La Constitution et cette loi de 1947 utilisent également le terme de famille impériale, Kōshitsu, qui signifie, selon la loi, l'empereur et sa famille, Kōzoku. Déclenchement de la succession impériale. La loi sur la maison impériale ne prévoit que la succession du fait et de la mort de l'empereur. Le nouvel empereur est alors immédiatement intronisé selon l'ordre de succession et cette succession automatique ne nécessite aucun acte particulier. Une cérémonie du couronnement, Sokui no Rei, est cependant effectuée un peu plus tard, mais elle n'a qu'un rituel, sans aucune signification juridique. Il faut donc signaler que la loi positive actuelle ne reconnaît pas le système d'abdication durant la vie de l'empereur. Ensuite, les conditions de la succession impériale. Le trône impérial est transmis par voie héréditaire selon l'article 2 de la Constitution. Héréditaire, cela signifie que la condition pour monter sur le trône est actuellement d'appartenir à la lignée de l'empereur. La loi sur la maison impériale a précisé dans son article 1er que la succession concernait les hommes de la lignée mâle appartenant à la lignée impériale et était limité à ceux qui appartiennent à la famille royale. Signalons cependant que les enfants mâles de la fille de l'empereur sont exclus de la succession, étant justement nés d'une fille. il a été envisagé de changer ce point il y a 10 ans, lorsque les deux garçons de l'empereur n'avaient que des filles. Mais la discussion a été abandonnée lorsque le second fils a fini à voir lui-même un garçon, ce qui a mis fin au problème. Deuxième. Sur l'abdication. La constitution actuelle et la loi sur la maison impériale ont ainsi déterminé la position de l'empereur et de son héritage, comme décrit ci-dessus. Dans cette hypothèse, il faut considérer le problème de l'abdication durant la vie de l'empereur. A. La discussion lors de l'élaboration de la constitution du Japon de 1946. Sur la constitution de Meiji et la loi sur la maison impériale étaient placées sur un pied d'égalité avec la constitution qui établissait l'empereur comme le souverain. Toutefois, suite à la nouvelle constitution entrée en vigueur le 3 mai 1947 et qui a adopté le principe de la souveraineté nationale, les alliés de haut au quartier général ont demandé à la Diète le vote d'une nouvelle loi sur la maison impériale qui serait promulguée le 16 janvier 1947. Mais à cette époque, aucune disposition relative à l'abdication de l'empereur ne figurait dans le texte. Le gouvernement d'alors et encore aujourd'hui a suivi la réponse de Tokujiro Kanamori, et ministre d'État à la Constitution chargé à l'époque de promulguer la Constitution, qui a approuvé ce choix afin de stabiliser la position de l'empereur. Si une abdication du vivant de l'empereur était mise en place, cela poserait plusieurs questions quant au point suivant. Premier, il y aurait toujours un risque d'abdication forcée de l'empereur historique. Deuxième, une abdication produirait alors la coexistence de deux empereurs, l'ancien et le nouveau. Et troisième, si l'empereur voulait abdiquer volontairement et unilatéralement, cela entrerait en conflit avec le système impérial mis en place qui repose dans son essence sur le consensus du peuple. Il faut signaler qu'au moment de la promulgation de la Constitution, la question de la responsabilité de l'empereur vis-à-vis de la guerre et de la survie du système impérial était vivement discutée et la théorie de l'abdication de l'empereur Showa était devenue un sujet brûlant. Lorsque les dispositions de la Constitution du Japon ont été édictées, et la thèse de l'abdication de l'empereur s'est intensifiée dans le pays et provoquant dans le gouvernement la crainte que l'empereur Showa puisse alors être poursuivi devant le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient s'il venait à abdiquer. Le rapport de la commission ad hoc de la législation qui a rédigé le projet de la loi sur la maison impériale indiquait alors « Si, en principe, sensiblement différent de la solution classique était listée dans la lettre de la loi, il se traduirait par une trop grande variété de spéculations sur la réalité de la situation. » Étant donné la situation difficile née de la guerre, la cause classique de succession au trône devait se limiter à la seule disparition de l'empereur. En outre, d'après les délibérations de la Diète impériale de décembre 1947, lors de l'adoption du projet de loi sur la maison impériale, et selon les mémoires de Shigeru Yoshida, l'ancien premier ministre, la question d'autoriser ou non l'abdication de l'empereur et de l'impératrice était un gros problème du fait du système impérial symbolique, pilier de la nouvelle constitution qui maîtrise l'unité du peuple japonais par la présence même de l'empereur. Dans ce débat, et pour Shichiro Matsumoto du Parti socialiste du Japon, La considération de la réalité socio-historique ne permet pas à l'abdication de l'empereur, mais il serait néanmoins possible d'en reconnaître la possibilité légale. De plus, il a examiné l'opinion que l'empereur n'étant plus divin, mais humain, son abdication devrait être approuvée par la volonté du peuple, selon l'article 1er de la Constitution. En revanche, le ministre d'État Kanamori a expliqué les raisons pour lesquelles on ne peut pas reconnaître l'abdication de la manière suivante. Pour l'empereur, l'abdication est certainement liée à sa liberté humaine. Cependant, la chose la plus fondamentale est l'idée de l'unité du peuple japonais qui y incarne aujourd'hui en tant que symbole de ce pays, symbole qui doit être stable et immuable. Monsieur Matsumoto a répondu qu'il convient de noter que parce que la position de l'empereur est basée sur le consensus du peuple, il est nécessaire d'encadrer au préalable cette volonté impériale par une loi de la diète. Le ministre d'État Kanamori répondit « Et ce projet de loi sur la maison impériale est ajusté de façon à ne pas provoquer une telle situation. » En tout état de cause, notre intelligence nationale pousserait la diète à adopter une nouvelle loi adéquate en cas de situation inattendue. Mais les discussions au sein du comité de cabinet de la Chambre des représentants d'avril 1944. Le député socialiste Kazuhito Wada s'est interrogé devant le comité du cabinet de la Chambre des représentants en avril 1944 sur l'abdication de son vivant de l'empereur Showa, âgé à l'époque comme l'actuel empereur Akihito de 82 ans. Comment ne pas penser à l'abdication de l'empereur de son vivant ? Je veux libérer l'empereur, disait-il. Mais comme décrit ici-dessus et selon les dispositions de la loi sur la maison impériale, il a été conclu que l'empereur ne pouvait céder sa place qu'à sa mort. Satoru Yamamoto, à l'époque directeur adjoint de l'agence impériale, a confirmé cette impossibilité et a cité trois questions problématiques impliquant une telle réponse négative. Le premier problème est qu'en cas d'abdication, l'ex-empereur coexisterait avec le nouvel empereur, ce qui risquerait de créer une double autorité étatique, comme actuellement avec le pape François et l'ancien pape Benoît XVI. D'ailleurs, s'il était réellement prévu un système d'abdication de son vivant, comment pourrait-on en déterminer le nom et le rôle de l'empereur suite à son abdication, alors que ceci se fait au Japon après la mort de l'empereur? Les relations et la répartition des rôles entre l'ex-empereur et son successeur est un véritable défi. Conformément à la loi sur la maison impériale, il existe cependant une méthode pour résoudre les questions importantes au sein d'une conférence impériale de famille. Mais cette conférence comprend 10 personnes, dont 5 des hommes politiques, comme par exemple le Premier ministre. Ainsi, l'abdication de l'empereur de son vivant, s'il était autorisé, risquerait d'être utilisée politiquement par cette conférence. Deuxièmement, il envisage le risque d'abdication forcée qui ne reposerait pas sur la propre volonté de l'empereur. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer comment l'empereur lui-même affiche son intention, comment vérifier cette intention de l'empereur et qui peut véritablement enregistrer cette volonté. Troisièmement, lorsque l'empereur est libre d'abdiquer et de quitter ses fonctions parce qu'il veut arrêter par son libre arbitre, il y a une possibilité de conflit avec la philosophie de l'empereur symbolique de la Constitution. La Constitution stipule en effet que le statut de l'empereur est basé sur la volonté du peuple en qui réside le peuple souverain. L'empereur ne peut donc imposer sa volonté unilatéralement, mais doit obtenir le consensus du peuple japonais. Et signalons également qu'en février 1959 est apparu un même débat devant le comité du cabinet de la Chambre des représentants. Shuzo Hayashi, chef de bureau de législation du cabinet, a eu cette analyse. Le régime d'abdication volontaire de l'empereur ne saurait être conforme à sa position comme symbole de l'État et de l'unité du peuple, ni être conforme au principe de volonté du peuple souverain. Conclusion. Autant en 1946-1959 qu'en 1984, le gouvernement a montré une attitude négative quant à une possible abdication de l'empereur de son vivant. Aujourd'hui, étant dans un questionnement similaire, il a pareillement reconnu que le système actuel de régence d'empereur intérimaire était insuffisant. Taro, à son ministre de Finances, lors d'une conférence de presse après la réunion du cabinet de 15 juillet 2016, a dit « Durant la seconde moitié de l'ère Taisho, l'empereur de fait était bien le futur empereur Showa au nom de ses droits substantiels. En effet, la maladie de l'empereur Taisho était devenue plus lourde et le prince héritier de l'époque, le futur empereur Showa, avait bien agi en tant que régent. Cependant, un sondage d'opinion récent a indiqué que 77% des sondés approuvaient la possibilité d'une abdication de l'empereur de son vivant. Et en outre, même si la Constitution ne permet pas à l'empereur d'avoir des activités politiques, pour 90 à 80% des sondés, et il n'y a aucun problème constitution et qu'il annonce son intention d'abdiquer. Et enfin, pour seulement 15% des sondés, il faudrait mettre en place une régence en conservant le système actuel. De cette façon, l'opinion publique semble être extrêmement favorable à la possibilité de l'abdication de l'empereur de son vivant. En fait, le 8 août, l'empereur a émis lui-même un message indiquant son intention d'abdiquer. Et si le gouvernement qui a reçu la déclaration de l'empereur a bien commencé l'examen des changements institutionnels nécessaires, ce message de l'empereur ne peut alors être pris comme une déclaration politique qui est pourtant interdite par la Constitution. Mon opinion personnelle en ce qui concerne le système d'abdication est qu'il est nécessaire de partir d'une table rase au-delà du contexte présent. Si l'empereur veut raisonnable d'abdiquer du fait de la lourdeur de sa charge et au vu de son âge ou de ses capacités physiques ou mentales, il ne serait pas bon de l'empêcher. Et toutefois, on pourrait aussi y penser que si l'empereur se concentrait uniquement sur les actes qui lui imposent la Constitution, sans s'impliquer dans des activités sociales aussi nombreuses, il serait sans doute moins éprouvé par le poids de ses fonctions et ne serait pas obligé de penser à abdiquer. Merci de votre attention.